Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Cette semaine, En habit vert consacre son portrait à une sinologue, une spécialiste de la Chine, Marianne Bastide-Bruguière. La chercheuse a consacré toute sa carrière à l'étude de la Chine moderne et contemporaine, une Chine qu'elle aime depuis toujours puisqu'elle a commencé à en apprendre la langue toute jeune. Alors aujourd'hui, Marianne Bastide-Bruguière est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et si elle est issue d'une lignée d'académiciens, elle n'a rien hérité de sa place. Elle l'a conquise pas à pas par le travail et l'exigence scientifique. Dans cet épisode, elle nous raconte la naissance de son histoire d'amour avec la Chine, son premier voyage en 1964 à Pékin, et puis les années de la révolution culturelle qui l'ont empêché pendant 12 ans de poursuivre ses recherches sur place. À l'entendre, on comprend que saisir un pays ne relève ni de l'instant ni de l'évidence, mais d'un patient travail de rigueur et de longue haleine. C'est chez elle, à Paris, que nous sommes allés l'écouter. Marianne Bastide-Bruguière est la 13e invitée d'En habit vert. Alors, elle nous a donné rendez-vous chez elle, dans le 5e arrondissement. Porte à droite. Sixième étage.
Bonjour mesdames.
Bonjour madame. Merci de nous accueillir chez vous. C'est très lumineux. Vous avez une super vue.
Elle a été pas mal abîmée depuis que j'ai acheté l'appartement parce qu'il y a eu beaucoup de construction. Oui.
Où est-ce que vous préférez vous installer ? Sur ce fauteuil ? Sur le canapé ? Vous avez une préférence ?
Non, non,
Marianne Bastide-Bruguière, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre appartement à
Paris. Je suis ravie de vous voir toutes les deux.
Ça fait longtemps que vous l'habitez, cet appartement ?
Oui, ça fait longtemps. Je l'ai acheté en 1970. Et je l'ai visité un jour de neige. Et c'était absolument merveilleux, parce qu'il faisait très clair. Et il y avait l'église de Port-Royal couverte d'un joli tapis de neige. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et c'était pas très loin non plus de l'appartement que possédaient mes grands-parents. Mmh. Rue Cassini. Donc c'était un quartier que je connaissais et j'ai décidé de l'acheter. Et puis ensuite, quand je me suis installée, j'ai découvert que c'était extrêmement bruyant. Mais peu à peu, j'ai mis des doubles fenêtres et c'est beaucoup mieux. Il a une très bonne orientation par rapport à ce qu'on appelle le feng shui en Chine. C'est toujours des orientations par rapport aux directions principales du monde parce qu'il est nord-sud. Et puis j'ai la chance de voir le dôme du Val-de-Grâce, le dôme du Panthéon, en se penchant un peu. Et c'est un appartement gai, parce qu'il a des fenêtres. Puis alors, peu à peu, quand je me suis mariée, que j'ai eu des enfants, etc., j'ai agrandi, puis au-dessus des chambres de bonne, où maintenant j'ai des livres et que je n'arrive plus à caser nulle part.
C'est vrai qu'on voit beaucoup de livres, et vous l'avez décoré avec, je vois derrière vous, des petites statuettes chinoises, des vases aussi.
Ce sont les bienfaits de tous les visiteurs chinois qui m'apportent toujours. Alors, il y en a certains que j'ai évacués ou que j'ai donnés à d'autres personnes, mais j'ai comme ça des témoignages de la gentillesse d'anciens étudiants, d'anciens collègues de l'Université de Pékin ou d'ailleurs.
Alors, vous nous avez donné quelques indices. Vous êtes spécialiste de la Chine, Marianne Bastide-Bruguière, sinologue, on dit. Et quand nous nous sommes appelés au téléphone, quelques jours avant cette rencontre, vous m'avez dit... Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine en 1952. Alors, moi, j'ai été assez étonnée parce que c'est une date ultra précise. Vous aviez environ 11 ans.
Oui, j'avais 11 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé à cette date ?
Ma mère était professeure de droit international à la faculté de droit de Paris. Et elle avait comme étudiant un Chinois, M. Hu Hongliu. Et il faisait sa thèse de doctorat avec ma mère sur la guerre de Corée. Il était marié, il avait un fils qui avait 5 ans à l'époque. Et comme le font les étudiants chinois, au moment du Nouvel An, ils doivent honorer leur professeur. Oui. Au moment du Nouvel An chinois. Et donc, vers le mois de février 1952, il a invité ma mère et toute la famille à venir déjeuner chez lui. Il habitait ici les Moulineaux. Mais comme c'était le dimanche, maman était ravie parce que ça évitait de faire le déjeuner du dimanche. Et j'y suis allée. Et puis il a parlé de la Chine et du fait que c'était un pays dans lequel les gens parlaient des langues très très différentes. Mm-hmm. Lui était d'une province à l'est de la Chine, la province du Zhejiang. Et donc il a expliqué toutes ces choses sur la Chine. Et quand je suis rentrée à la maison, je tenais à ce moment-là, comme les petites filles, un livre de mémoire. Ouais. Et j'ai tout écrit. Et il m'avait appris un certain nombre de caractères chinois, la lune, le soleil, parce que c'est facile à écrire. Et j'ai tout recopié. Et ensuite, j'étais en classe de cinquième et on était au premier rang avec ma meilleure amie, juste dessous le nez du professeur. Et le cours de mathématiques, je trouvais ça épouvantablement ennuyeux. Mon ami avait une montre, j'en avais pas à cette époque-là, les petites filles n'avaient pas de montre. Et je lui demandais l'heure pour savoir combien de temps on avait.
Il restait avant la fin du cours.
Mais on ne pouvait pas parler, on était sous l'œil du professeur. Donc je lui ai appris les caractères chinois pour écrire les chiffres et elle m'écrivait les chiffres en chinois pour me, me donner patience. Voilà. À partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était un pays extraordinaire, que c'était un système d'écriture extraordinairement intelligent parce qu'il avait expliqué comment les signes étaient formés et comment certaines parties du signe représentaient l'objet. Ça m'a paru extraordinairement intelligent. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lu tout ce qu'on pouvait trouver dans la bibliothèque du 7e arrondissement sur la Chine. J'ai lu Confucius, mais dans des traductions du 19e siècle.
Et est-ce que vous apprenez, vous commencez à apprendre la langue?
Mais non, parce qu'à cette époque-là, le seul endroit où on pouvait commencer à apprendre le chinois, c'était l'école des langues orientales.
L'ancêtre
de
l'INALCO.
Et on ne pouvait y entrer qu'après le bachot. Mmh. Bon. Et dans l'enseignement secondaire, il n'y avait absolument aucun enseignement du chinois. Maintenant, c'est très répandu. Beaucoup de familles font apprendre le chinois à leurs enfants. Mais à l'époque, pas du tout. Donc, il n'y avait aucun moyen d'apprendre la langue. Tout ce que je pouvais savoir, c'était me renseigner sur la Chine. Et donc, je l'ai fait par la lecture. Et en réalité, je n'ai pu me mettre à l'apprentissage de la langue que relativement tardivement, quand je suis rentrée à l'école normale.
Et l'apprentissage de cette langue chinoise vous a permis de mieux comprendre, j'imagine, la manière de penser de ce pays, de cette civilisation?
Les débuts de l'apprentissage de la langue étaient assez pénibles parce qu'il n'y avait pas du tout de méthode moderne pour apprendre. Il n'y avait même pas de magnétophone.
Comment vous faisiez?
Mais les malheureux, il y avait trois répétiteurs chinois qui était chargé de nous apprendre à prononcer, hein, surtout, enfin, parce que c'était ça qui était compliqué. Et il disait un mot, puis après, il fallait le répéter. Et il disait, c'est pas juste, mais il vous expliquait pas en quoi c'était pas juste et comment il aurait fallu faire pour prononcer comme il fallait. Et c'était vraiment extrêmement frustrant.
Ah, j'imagine.
Alors, étant désespéré, il y avait un répétiteur qui a été un grand traducteur, il a traduit des romans chinois très importants, Li Zhehua, qui était terrifiant absolument, parce qu'il était boutoué, ça veut dire faux. Bon. Et bien, vous asseyez en tremblant.
Terrorisé.
Ouais, oui, terrorisé. Et finalement, j'ai été avec la répétitrice qui était très gentille, charmante, mais ça n'était pas très efficace. Et quand je suis arrivée en Chine en 1964, je ne comprenais rien du tout.
Mais c'est normal, quand on apprend une nouvelle langue, on découvre aussi derrière tout un système de pensée, de conception du monde.
Il y a un dessin hein, pour chaque idée ou chaque mot. Hein. Et donc, il faut retenir le dessin de ces caractères et en même temps la prononciation de ces caractères. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sons en chinois. Il n'y a pas beaucoup de variétés de sons.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de mots qui, en réalité, se prononcent de la même manière, mais ils s'écrivent de façon tout à fait différente et ont un sens tout à fait différent. Donc c'est ça qui est un peu troublant.
Mais ça n'a en aucun cas ébranlé votre volonté.
Non, parce que au contraire, la difficulté vous excite et vous dites, il faut que j'y arrive.
La première fois que vous découvrez la Chine, c'est lors d'un séjour d'études que vous faites donc en 64.
Mais c'est pas un séjour d'études, c'est un séjour de travail parce que je venais de passer l'agrégation d'histoire et géographie et j'ai donc été recrutée on était 14 en tout, parce que l'ambassade de Chine avait ordre de Pékin de recruter des professeurs de français pour développer l'enseignement du français dans les universités chinoises.
D'accord.
À cette époque-là, la France venait de reconnaître la Chine populaire et le gouvernement de la Chine populaire voulait récupérer son siège, le siège de la Chine à l'ONU. Au mois de juillet, quand j'étais en train de passer les oraux d'agrégation, j'ai reçu un coup de téléphone du service culturel du ministère des Affaires étrangères. En me disant, écoutez, nous avons appris que l'ambassade de Chine recrute des professeurs pour enseigner le français. C'est pas passé par nous. Et bon, j'ai expliqué les études que j'avais faites et j'ai dit, bon, je voudrais y aller. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour enseigner. Mais ce que je veux, c'est avoir la certitude que je pourrais en même temps continuer des études.
Oui, vous ne voulez
l'histoire.
Pas abandonner à côté.
Aucun problème. Faire une thèse, aucun problème. Oui. Vous partez dans 15 jours.
Vous êtes pris un peu au dépourvu, là.
Bon, alors là, j'ai dit, bon, il faut quand même que je prépare un peu, parce que c'est pour 2 ans. En réalité, je ne suis partie que vers le 20 août, à peu près. Roissy n'existait pas encore, c'était au Bourget. Et donc, au Bourget, il y avait, et c'était un avion qui devait aller à Phnom Penh. C'était l'avion d'Air France qui allait à Phnom Penh.
Et alors, quelle est votre ville de destination? Vous partez en Chine pour quelle ville? Pour Pékin?
Oui, mais on a mis plus d'une semaine pour arriver. Parce que quand on est arrivé à Phnom Penh, ensuite de Phnom Penh, il fallait aller à Canton. Et puis ensuite, on est resté à Canton, on a visité un petit peu, et après, on a repris un avion pour Pékin.
La destination finale.
Oui.
Et alors, quand vous arrivez à Pékin?
Alors, quand on est arrivé à Pékin, on était entouré tout le temps.
Ouais. Hein? Oui, jamais seul, jamais complètement
libre. Non, on était entouré tout le temps. Le trajet entre l'aéroport et la ville, c'était une campagne, maintenant c'est dans... Aucun rapport, enfin, vous pouvez imaginer ce que c'est. Non, parce que c'était une campagne où il y avait des buffles encore, et puis les gens tous à pied, aucune voiture.
Aucun train, aucun transport en
commun. Il y avait quelques bicyclettes, mais très rares, et le car qui nous transportait était le seul véhicule à moteur, vous voyez. Et la ville de Pékin, il y avait absolument... On arrivait, il y avait la muraille encore qui entourait la ville. Et c'était extraordinairement différent de tout ce que j'avais jamais vu. Et ça correspondait aux photos anciennes et traditionnelles.
Que vous aviez vues à Paris.
Oui, que j'avais vues à Paris, que j'avais, etc. Et après, on a été amené à l'Hôtel de l'Amitié, qui était un grand... ensemble d'immeubles qui existent toujours d'ailleurs, qui avaient été construits pour abriter les coopérants soviétiques. Alors là, c'était un style soviétique. C'était assez étonnant parce que tout le reste, c'était des maisons basses et des choses... Enfin, une vie rurale complètement, c'était la campagne.
J'imagine. Et donc vous allez rester près de 2 années pour notamment enseigner le français à des étudiants chinois. Racontez-nous un petit peu l'atmosphère dans les salles de cours. Est-ce que vous vous êtes senti chahuté, libre? Racontez-nous un peu l'atmosphère.
Ils étaient d'une discipline absolument parfaite. Quand on arrivait dans la salle, ils se levaient tous et puis il fallait leur dire de s'asseoir et tout. Ouais. Non, il y avait une discipline, un respect qui était absolument prodigieux. Non, tout marchait à la baguette. Non. Et les étudiants... Ça a été très différent pendant la Révolution culturelle. Le régime normal, c'était extraordinairement discipliné, chacun à sa place, ne faisant que son travail. Et s'il y avait des choses extraordinaires, demandant toujours à l'échelon au-dessus ce qu'il fallait faire. Non, c'était, et il fallait suivre l'ordre et aussi la hiérarchie et être très, très attentif.
Et à ce moment-là, quand vous vivez donc ces deux années avant la Révolution culturelle, vous êtes encore une fois toujours accompagné ou alors vous pouvez découvrir le pays un peu comme vous le souhaitez
Ah non, tout était très contrôlé. Si vous voulez, les étrangers résidant à Pékin avaient un périmètre dans lequel ils avaient le droit de circuler. Mais ça s'arrêtait, par rapport à l'hôtel de l'amitié, c'était à 8 km la frontière.
D'accord.
Et si on franchissait la frontière en vélo, parce qu'on a tous acheté des vélos pour pouvoir circuler plus librement, ce qui représentait un luxe absolument, comme la voiture américaine à Paris à ce moment-là. Il y avait très peu de gens qui pouvaient se payer des vélos. Pas comme c'est maintenant. Si on essayait de franchir la frontière, ce que certains de mes camarades ont évidemment essayé de faire, on était immédiatement arrêtés. Parce qu'il y avait des gens partout, dans les champs, etc. Donc, même si ce n'était pas ceux-là qui vous arrêtaient directement, ils prévenaient immédiatement la garde, parce qu'il y avait des gardes. Et les gardes arrivaient, et puis vous renvoyez, etc. Prenez les notes de qui vous étiez, etc. Et puis on vous renvoyait. Et si on voulait sortir de Pékin pour aller visiter Shanghai ou Tianjin, il fallait aller à la police, demander la permission. Et alors la police était extraordinaire parce que les officiers de police étaient sur une sorte de tribune au-dessus et vous, vous étiez en dessous,
tout
tendant
petit.
La tête comme ça, comme des suppliants. Et je me souviens, quand on a essayé de faire des sorties en groupe avec mes camarades, souvent, c'était moi qui allais à la police. Bon. Et j'étais comme ça, là. Et il y avait une dame, officier de police, jeune, très jolie, dans un univers. Et alors, elle me disait, non, oui. Alors, je tendais mes suppliques et pour obtenir les choses. Non. Et... Si vous voulez, pour les étudiants, par exemple, on ne pouvait pas passer le week-end dehors. C'était très compliqué parce que normalement, ou même les professeurs que nous étions, parce que théoriquement, on était dits experts étrangers. Et donc, on avait un statut relativement privilégié. Mais on ne pouvait pas aller se promener comme ça du tout. Et pour obtenir une place dans le train, un billet de train,
encore une fois,
c'était aussi très compliqué.
Alors, on est en 66, la révolution culturelle s'apprête à débuter. Ce moment, c'est un véritable tournant autoritaire qui a lieu sous Mao Zedong. 10 années de persécution de millions de personnes, des milliers, voire des millions de morts. Vous, qu'est-ce que vous voyez de ce tournant autoritaire ?
Ça a commencé doucement, si je puis dire, par des articles dans les journaux. En octobre 1965. Et puis, on a vu que ça pénétrait dans l'organisation des études à l'université. Moi, j'étais à l'université de Pékin et j'ai vu comment, dès le mois de novembre, le professeur d'histoire, parce que finalement j'étais arrivé à avoir des relations avec la faculté d'histoire, le professeur d'histoire qui s'occupait de moi m'a dit « je suis envoyé à la campagne » pour procéder à une campagne de vérification qui s'appelait les quatre purifications pour démasquer les cadres ruraux qui avaient été corrompus ou qui n'avaient pas suivi les directives du parti ou qui revenaient à la voie capitaliste, c'est-à-dire qui permettaient aux paysans de cultiver la terre pour leur propre compte. Et de vendre ce qu'ils produisaient, ce qui était contraire au système communiste. Et donc, ce professeur m'a dit, je suis obligé de partir à la campagne, mais avec d'autres professeurs de l'Université de Pékin et d'autres gens, d'autres universités aussi, qui ont été envoyés, c'était à la fois pour le rééduquer lui-même, au contact des paysans, qu'il ait une vie dure avec les paysans, il était asthmatique, c'était pas tellement drôle.
Non.
Il m'a dit, un de mes anciens élèves qui était professeur s'occupera de vous, donc j'avais pas de... Mais il est donc parti, et puis au mois de février, ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont partis.
Dans les campagnes.
Qu'on a envoyés dans la campagne. Mais là, pas pour corriger les paysans, pour se corriger eux-mêmes. Et les directives qui étaient données à ce moment-là, c'était que désormais, les étudiants devraient faire la moitié de leur temps d'études à la campagne. Alors, pour les étudiants de langue, c'était une catastrophe, parce qu'à la campagne, il n'y avait plus de magnétophone, ils ne pouvaient plus rien
d'étudier,
ouais. Ils ne pouvaient pas étudier, continuer à étudier sérieusement. Et à ce moment-là, les étudiants étrangers ont été réunis. C'était le doyen de la section d'histoire, qui était un membre important du parti,
ouais,
qui nous a réunis, qui nous a expliqué que les étudiants chinois partaient, mais que nous, les étudiants étrangers, on pouvait rester, qu'on continuerait à s'occuper de nous et à nous donner des cours, et que c'était une chose... absolument extraordinaire, inouï, que personne n'avait jamais fait. Et les choses ont changé, et surtout, on a commencé, dans la presse, il y a eu des critiques très virulentes contre un certain nombre de dirigeants de Pékin, contre des dirigeants de l'Université de Pékin, contre, en réalité, toute une faction, supposée être une faction, parce qu'ils n'étaient pas forcément liés les uns entre les autres, mais toute une série de gens qui avaient critiqué certaines des mesures politiques avaient été décidées par Mao Zedong pendant le grand bond en avant et après le grand bond en avant. Et les professeurs chinois que je connaissais bien, qui m'expliquaient ce qui se passait, ils me disaient que c'était un règlement de compte. Et eux étaient extrêmement inquiets parce qu'ils avaient eu l'habitude de campagnes politiques de ce genre-là. Et là, c'était plus dur encore
c'était
que ce que
extrême.
C'était avant. Et enfin, on ne s'attaquait pas encore physiquement aux gens, mais les reproches qui étaient prononcés, que c'était des capitalistes, des bourgeois qui voulaient supprimer la révolution communiste, étaient encore plus graves que ce qu'on avait utilisé comme argument auparavant. Auparavant, c'était contre les propriétaires fonciers, des gens qui avaient la pensée bourgeoise, etc. Mais c'était au fond des restes.
C'était différent cette fois-ci. Et vous avez senti ces prémices ?
Non, j'avais une chambre qui donnait sur une petite cour. Et je pouvais voir des professeurs avec une pancarte autour du cou, réactionnaire, chien de capitaliste, ou comme ça. Des vieux professeurs, et balayant la cour, astreint travail manuel, etc. Et si vous voulez, il y avait des meetings où les gens étaient mis à genoux, les bras derrière le dos, et la tête penchée, pendant des heures et des heures, en les accusant de tous les crimes, et en exigeant qu'ils fassent de amende honorable, etc. et tout. Ça devenait extrêmement violent.
Mais alors vous n'allez pas, enfin vous allez rentrer en France puisque votre séjour de travail prend fin.
Au mois de juin, beaucoup de mes camarades sont retournés en France parce qu'il fallait qu'ils passent leurs examens au Langzhou. Moi, c'était pas mon cas. Et on leur a dit qu'ils ne pourraient pas revenir parce que les cours s'arrêtaient complètement. Et moi, je venais d'être accepté au CNRS, d'entrer au CNRS, et je devais prendre mon... Enfin, ça a commencé au mois de septembre. Donc, je pensais qu'il fallait que je retourne à Paris pour voir les professeurs, prendre contact avec le CNRS, etc. Et j'ai demandé, si je pars là en septembre, est-ce que je pourrais revenir ou est-ce que ça sera comme pour les étudiants ordinaires ?
On vous dira non.
Et ils m'ont dit non. Pour les étudiants de recherche, il n'y a aucun problème, vous pourrez revenir. Donc, je suis restée en Chine jusqu'au 15 septembre. Et le 15 septembre, je suis repartie pour Paris. Et à peine j'avais quitté le territoire chinois, le 16 septembre, 66. L'ambassade a été prévenue que je ne pourrais pas revenir avant un certain temps. Alors, je n'ai connu la nouvelle que quand je suis rentrée à Paris.
En France.
Je me suis précipitée à l'ambassade de Chine pour savoir
quand
combien de temps ça allait durer. Et là, j'ai trouvé un conseiller culturel qui se faisait un sang d'encre de ce qui se passait en Chine. Il ne savait pas, il n'était pas informé. Mmh. Il m'a demandé de lui raconter tout ce que j'avais vu. Je lui ai expliqué. Et il était terrifié. Et il m'a dit, je ne sais rien du tout.
Ouais, il
ne savait rien du tout. Et en réalité, ça a duré pendant 10 ans.
Et vous...
Mais j'ai pu simplement retourner un mois en 1971. Et quand je suis arrivée à Pékin, mon problème, c'était de savoir si je donnais ou non la liste des personnes que je voulais voir à l'université de Pékin.
Et oui, parce que vous aviez peur de les mettre en danger, peut-être.
Oui, c'est ça. Je me disais, est-ce que je vais les mettre en prison si je donne leur nom? Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, c'est complètement idiot. Parce que depuis le début, tout le monde sait qui je voyais, parce que rien n'était à cacher. On ne pouvait rien cacher. Il y avait toujours quelqu'un. Bon. Donc, on le sait déjà. Au contraire, si je demande à les voir, ça peut aider à les sortir de prison.
Et alors ?
Parce que ça montre qu'à l'étranger, on s'intéresse à eux.
Et ça les a aidés ?
Alors, comme j'avais donné ma liste, et puis quand je suis arrivée, j'ai regardé... Puis j'ai vu qu'il y en avait un qui manquait. Quoi. Et je ne pouvais pas demander pourquoi il n'est pas là. Parce que je me suis dit, si jamais il y a un truc, il faut que j'arrive à savoir pourquoi il n'est pas là. Et heureusement, il y a eu un moment où j'ai pu interroger mon professeur, mon vieux professeur, pour lui dire, il n'est pas là. Il m'a dit, il est chez lui, mais il n'a pas le droit de sortir. Alors je me suis dit, bon, il est vivant, il n'est pas en prison. Et bon, il faut qu'il attende. Et quand je suis revenue à Paris, on m'a demandé au Centre de politique étrangère de faire une conférence. Et si vous voulez, il y a des choses que je n'ai pas dites parce que je ne voulais pas que ça risque de faire ricocher.
Là, vous avez bien décrit cette situation politique chinoise assez, assez complexe. Au fond, qu'est-ce qui vous a plu dans la civilisation chinoise que l'on ne retrouve pas en Europe ?
Ce qui est admirable, c'est la capacité d'absorption des aléas de la vie et de survie, la capacité de survie. Et en même temps, cette capacité à garder une très grande humanité. Ce qui est extraordinairement curieux, c'est que c'est à la fois une société extrêmement violente, hein, où les individus ne comptent pas, et un degré d'humanité qui est à travers toutes les couches de la société, avec une douceur, une aménité étonnante. C'est le contraste entre les deux. Et l'accommodation entre les deux, qui est une découverte perpétuelle. Et la manière dont ils survivent. Et aussi, bon, il y a des gens qui sont aveugles, là, hein, mais comme chez nous, c'est pareil, qui ne réfléchissent pas assez, ou qui ont décidé qu'ils ne réfléchiraient pas davantage, ou qu'ils ont tel intérêt à faire telle chose, ils le font par intérêt. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait différents. Et même quand le régime devient le plus dur, ce qui est le cas actuellement, par-dessous, il y a toujours cet esprit éveillé, d'ouverture et de soif de connaissance, et de connaissance vraie, et aussi d'action. Parce que ce qui est aussi remarquable, c'est la capacité d'action.
À côté de la Chine, bon, oui. Vous avez fait toute votre carrière au CNRS. Vous avez été notamment directrice adjointe de l'École normale supérieure à Paris.
J'étais la première femme.
Oui.
Et au moment où les deux écoles ont été réunies, l'école des garçons et l'école des filles, il a fallu nommer une nouvelle direction. Et on a nommé d'abord le directeur, mathématicien. Donc, il fallait une femme littéraire. Et c'est sur moi que c'est tombé. Mais c'est une autre histoire. J'ai fait un mandat de 5 ans. Et ensuite, comme une des choses qui me paraissait importante, c'était que le personnel se renouvelle à l'école. Parce qu'autrement, les professeurs restaient trop longtemps. Ils avaient l'impression d'être toujours jeunes, parce qu'ils avaient toujours des jeunes nouveaux devant eux. Mais pour les jeunes, c'était un peu moisi. Mon idée, c'était qu'il fallait qu'il y ait un renouvellement régulier et que si moi, je ne respectais pas ça et que je m'incrustais, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, on est très opérationnel. Mais si je m'incrustais, c'était mettre par terre cette politique qui me paraissait nécessaire, étant donné le mouvement actuel des choses. Il faut que ça se renouvelle, il faut qu'il y ait du sang neuf tout le temps. Et puis aussi, je risquais d'oublier tout mon chinois et tout, et que maintenant la Chine s'ouvrait de nouveau, qu'il fallait absolument que j'y retourne, autrement je serais bonne à rien.
Vous y êtes retournée et vous continuez à y retourner en Chine encore aujourd'hui. Je voulais parler de votre élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez été élue dans cette académie en 2001. Vous n'êtes pas la première personne de votre famille à intégrer cette académie.
Non. Et tout le monde croit que c'est une sorte d'hérédité ou que ça n'a rien à voir
avec
ma
famille. Non, vous n'avez pas du tout été élue pour les mêmes raisons.
Non.
Qui était membre de cette académie ?
Mon grand-père maternel. Jules Badevant, qui avait été le jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, professeur de droit à la faculté de Paris, donc lui a été élu, autant que je me souvienne, c'est en 1946, comme ça. Mon père a été élu aussi en 1946.
Et puis ?
Et alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ma mère, qui était professeur de droit international aussi.
C'était la première femme
à agréger. A été la première femme membre de l'Institut.
Toute académie confondue.
Toute académie confondue, en mars 71. Et c'était le moment où je suis partie au Japon. Et avant que je parte au Japon, elle m'a dit je ne me présente pas, etc. Louise Weiss a été retoquée, la duchesse de la Rochefoucauld a été retoquée. Je lui ai dit il faut que tu y ailles. Et je pense que, quand je lui ai dit, ça se comptait. Et elle a été élue à une voix de majorité.
C'est vrai, oui. Très peu.
Et en plus, et mon père a toujours dit que c'était sa voix, parce que maman ne voulait pas que papa aille voter le jour du vote. Et papa a dit, si, j'irai quand même, parce que ça peut toujours servir. Et effectivement,
ça a servi.
Elle était poussée par Édouard Bonnefous, qui était chancelier à l'époque. Ce qui était extraordinaire, parce qu'Édouard Bonnefous, ce n'était pas du tout pour les femmes. Mais il avait pensé qu'à un certain moment, il fallait quand même des femmes. Et donc, maman était élue. Et donc, il y en a 3. Mais moi, j'ai été élue. Ils étaient tous morts. Maman était morte depuis 1995. Et ça n'a rien à voir avec ça. Et un jour, Cluzel m'a téléphoné en disant, il y a un siège vacant. Dans ma section, elle était en morale et sociologie. Il faut vous présenter. Je dis, écoutez, je ne fais pas de la morale et de la sociologie. Un, et deux, je n'ai pas du tout le niveau qu'il faudrait avoir. Si, on a besoin de femmes, il faut vous présenter. Bon, je me suis présentée, ça n'a pas marché. Mais ensuite, miraculeusement, si je puis dire, il y a eu un autre siège dans la session de morale et sociologie.
Ce qui signifie qu'il y a eu un décès,
Je me suis présentée et ça a marché contre des gens fort appuyés.
Et dernière question, est-ce que vous avez, en tant qu'académicienne, reçu une épée ?
Alors, oui, si vous voulez, je trouvais qu'il fallait suivre. D'ailleurs, Jean Cluzel était très à cheval sur la conservation de tous les rites, etc.
Pour les femmes.
Pour les femmes aussi bien que pour les hommes.
Et pour les hommes.
J'ai fait faire mon habit et je considérais qu'il fallait une épée. Alors pour l'épée, j'ai choisi une petite épée de page. Dans un marchand d'épées qui vend des épées d'ailleurs à tous les académiciens. Et simplement, j'y ai fait ajouter quelques petits détails.
Comme quoi, par exemple ?
Un petit dragon. Je suis née l'année du dragon. dans le calendrier chinois.
On ne pouvait pas imaginer cette épée sans un dessin de Chine, évidemment. Marianne Bastide-Bruguière, merci de nous avoir raconté ces moments importants de votre parcours. Il y en a évidemment beaucoup d'autres à raconter, bien sûr. Et merci d'avoir été l'invité dans l'Habit Vert. À bientôt à l'Institut.
En Habit Vert, rencontre avec une académicienne. Les podcasts de l'Institut de France.